Paso doble.
Paso doble.
Le grand entretien culture des petits matins. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour, on garde les bonnes habitudes donc, tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Et pour commencer, la saison Coquelicot d'Irak du couple Brigitte Findakli et Lévis Trondheim, mes invités. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et le livre est édité par l'association. C'est vraiment un beau paso-doble, un livre confectionné à quatre mains. Les dessins sont de Lévis Trondheim, les couleurs de Brigitte Findakli et le scénario signé par les deux. Mais il s'agit de votre histoire, Brigitte Findakli, de votre enfance en Irak, à Mossoul, pour être précis. Et vous parlez de ce pays qui vous a vu naître dans les années 60 et que vous allez quitter une décennie plus tard. Une enfance irakienne donc, la famille, l'école, la culture de là-bas, mais aussi l'exil, l'arrivée en France dans les années 70. Coquelicot d'Irak, c'est aussi un voyage par les souvenirs, les bons et les moins bons, dans des décors qui, pour la plupart, ont disparu, détruits par les guerres. D'ailleurs, le livre s'ouvre sur une scène de pique-nique sur le site archéologique de Nimrod.
Oui, effectivement, quand Daesh est entré dans Mossoul et quand j'ai vu les images des lions ailés de Nimrod en train d'être saccagés, démolis, non seulement j'ai été vraiment très choquée et tout de suite après j'ai été chercher dans les photos parce que je me souvenais bien de cette photo-là. Donc d'une photo de moi toute jeune en train de jouer dans ces ruines. En fait, on y allait pratiquement tous les vendredis en pique-nique là-bas avec des amis. Et donc j'ai ressorti cette photo-là et voilà. Et je l'ai montrée à Lewis en disant tu as vu. Tu as vu ce qu'il en est là, ce qu'ils en ont fait. Et Lewis a tout de suite rebondi sur cette photo-là et il a eu l'idée. Il m'a demandé quand même si je voulais bien qu'on écrive ses souvenirs, qu'on fasse une bande dessinée sur mes souvenirs parce qu'il était au courant que ça faisait déjà un moment que je voulais les écrire. Et donc voilà, il m'a proposé de faire déjà une page, voire un peu, et il a fait donc cette première page qui commence par cette photo. Et quand j'ai vu ce qu'il en a fait, j'ai dit effectivement, c'est vraiment bien, c'est bien mieux que ce que moi j'avais essayé de faire ces dernières années, c'est-à-dire d'écrire mes souvenirs. Mais
elle était trop dans le pathos.
Mais j'étais, trop de sentiments, c'était pas bon.
Et vous, comment vous avez découvert cette histoire de votre compagne, Brigitte Findakli, Lewis Trondheim, c'est par petits bouts
Par petits bouts. Moi, on travaillait en fait ensemble dans le même atelier à Paris à partir de 91. Elle était donc coloriste, moi je commençais mon métier de dessinateur. Et bon, je la voyais et je me disais, elle a l'air plutôt de type un peu arabe, mais encore, je suis pas sûr. Puis à un moment, j'ai compris qu'elle venait d'Irak. Après, je savais pas du tout si elle était musulmane ou si elle était chrétienne ou si elle était juive. Je m'en fichais. Puis petit à petit, j'ai eu des petites touches, des petites informations. Pas que ça m'intéresse pas, mais bon, je me disais, si elle veut me le raconter, elle me le racontera.
Et alors, cette histoire, vous avez eu du mal à la raconter à ceux qui n'ont pas partagé avec vous cette expérience, c'est-à-dire en dehors de votre famille, Brigitte Findakli?
D'une manière générale, non, je ne m'étale pas sur mes origines, ni ce que j'ai vécu en Irak. C'est selon si la personne, si on me demande en général, si on me dit « tu viens d'où ?». Donc si on ne précise pas, je commence par dire, parce que donc nous vivons à Montpellier, donc, en général, je commence par dire j'ai vécu 20 ans à Paris avant de venir vivre dans le sud de la France. Mais si on me demande un petit peu plus, alors là, je dis oui, je suis née en Irak. Bon, les réactions maintenant, évidemment. Ah bon, est-ce que tu as de la famille là-bas, etc. Donc, je réponds plutôt aux questions. Mais sinon, je n'arrive pas en disant bonjour, je suis née en Irak, j'ai de la famille là-bas, etc.
Non, mais je vous pose cette question, Brigitte Findakli, parce que dans Coquelicot d'Irak, vous racontez bien sûr votre enfance en Irak, et c'est là toute la première partie du livre, mais vous racontez aussi l'exil en France dans les années 70, et puis aussi tous ces voyages que vous allez faire en Irak après, dans les années 80, dans les années 90, et à chaque fois, on vous voit seul, comme si cette histoire irakienne était une histoire personnelle. On vous voit jamais avec Lewis Strandheim essayer de retrouver le quartier de votre enfance. Non, j'ai l'impression, en lisant ce livre, que c'est une affaire très personnelle pour vous, l'Irak.
Alors, en fait, si Lewis ne paraît pas là, c'est parce que la dernière fois que je suis allée en Irak, c'était en 89. Or, nous nous sommes rencontrés fin 90, donc déjà, on ne se connaissait pas à l'époque. Ensuite, si j'y allais seule en Irak, il y avait plusieurs raisons. C'est que mon frère, qui lui a 6 ans de plus que moi, ne pouvait pas retourner en Irak au risque d'être pris pour le service militaire et donc ne pas pouvoir ressortir d'Irak. Mon père ne pouvait pas non plus m'accompagner parce que, en tant qu'ancien militaire, s'il retournait en Irak, il risquait aussi de ne plus pouvoir ressortir. Donc il n'y avait que ma mère qui, la première fois quand je suis retournée en Irak, elle m'a accompagnée, mais les deux autres fois, elle ne pouvait pas. Donc c'est la raison pour laquelle j'étais la seule, où moi je ne risquais rien. Je savais qu'en rentrant en Irak, on n'allait pas m'empêcher de ressortir.
Votre mère. Et puis tu avais envie de faire le service militaire peut-être.
Oui, c'est ça.
Votre mère qui est française. Alors bien sûr, pour Coquelicot d'Irak, on peut faire le parallèle avec les best-sellers de Riyad Satouf, l'arabe du futur, sur son enfance à lui dans l'autre pays de la dictature bassiste, la Syrie. Alors comme Riyad Satouf, vous êtes issu d'un mariage mixte, comme on dit, père irakien et mère française, qui se sont rencontrés à Paris. Mais il y a une différence quand même, hein. Contrairement au père de Riyad Satouf, qui est musulman, votre père, lui, faisait partie de la minorité chrétienne en Irak, ce qui donne un aperçu peut-être différent de ce pays, vu à partir d'une minorité, père chrétien orthodoxe, mère catholique, baptisée 2 fois, donc Brigitte Fildakli, vous racontez ça dans Coquelicot d'Irak, mais c'est aussi ça, hein, c'est un focus sur cette communauté irakienne.
Oui, en fait, le fait d'avoir été baptisé 2 fois, ça m'amuse toujours parce qu'en fait, mes parents sont croyants, mais ils ne sont absolument pas pratiquants. Mais c'est juste, genre, pour le principe, du coup, ils nous ont baptisés 2 fois, mon frère et moi, chez les uns, chez les autres, pour ne pas faire d'histoire. Mais bon, voilà. Sinon, oui.
Vous faisiez des histoires à l'école, par exemple, quand on vous a demandé de ne pas assister aux cours de Coran, d'éducation islamique, et vous avez pleuré, il a fallu que, qu'on vous fasse, je sais pas, une faveur pour que vous puissiez assister à ces cours.
Exactement.
Et vous racontez ça très bien.
Oui, parce que, nous vivions à Mossoul, alors que toute ma famille vivait à Bagdad, et ma famille fréquentait, donc en tant que chrétien, fréquentait essentiellement les chrétiens. Vraiment, les chrétiens se fréquentaient entre eux. Alors qu'à Mossoul, nous, en fait, tous nos amis étaient musulmans. On connaissait très très peu de chrétiens. Mais c'était pas, on se posait même pas la question de genre, on va fréquenter un tel, ah tiens, un tel est chrétien, un tel est musulman. Vraiment, ça n'avait aucune importance. Donc on vivait effectivement à Mossoul, une majorité d'amis musulmans. Et mes parents m'avaient scolarisé dans une école publique. Et à l'école publique, une fois par semaine, il y avait le cours de Coran. Et quand j'étais toute petite, donc au tout début, effectivement, les quelques chrétiens que nous étions dans cette école, on nous avait sortis de la classe parce que nous étions dispensés de ce cours. Et moi, j'ai pleuré. J'avais pas bien compris pourquoi on nous sortait de la classe. Donc j'ai pleuré, j'en ai parlé à mes parents, et puis là, mon père a dit, mais pourquoi pas, tu veux aller? Bah, je lui ai dit, mais oui, moi je veux faire comme les autres. Donc il a appelé le directeur qui lui a dit, bah, écoutez, si vous voulez, nous, ça ne nous pose pas de problème. Donc j'ai appris le Coran par cœur, je ne comprenais rien, mais à la limite, de toute façon, toute la scolarité, tout ce qu'on apprenait là-bas, c'était du par cœur. Donc c'était pas pire qu'autre chose.
Oui, la plus grosse difficulté que tu as eue en venant en France, c'était de faire une rédaction. C'est là on te demandait ton avis et là tu t'es trouvé complètement paniqué.
Bah, quand pendant 14 ans, enfin 14 ans on va dire, j'ai été scolarisée à, je sais plus, à 5-6 ans là-bas. Mais pendant tant d'années, on ne vous demande jamais votre avis. Les bons élèves, ce sont ceux qui apprennent bien leurs leçons par cœur. Et c'est vrai que la grosse panique a été en France, donc quand je suis arrivée en classe de 4e et à la première rédaction. Mais j'en étais malade. J'en étais malade. Je ne savais pas ce qu'il fallait que j'écrive. Comment ça, on me demande mon avis, mais quoi? Je ne savais pas.
Et ça, vous le racontez très bien. C'est aussi un hommage à vos parents, parce que j'ai l'impression que c'est ces deux solitudes qui se rencontrent, Garce à Lazare. Voilà. Votre père qui vient en France pour étudier, pour devenir dentiste, et votre mère qui, elle, non plus, n'avait pas autant d'attache familiale que lui, ils se rencontrent.
Voilà, ma mère n'avait plus d'attache puisqu'elle a été, on va dire, abandonnée par sa famille suite au décès de sa mère. Son père ne voulait pas s'en charger, puis elle avait des frères et sœurs qui étaient beaucoup plus âgés qu'elle, qui étaient même eux-mêmes mariés et qui avaient des enfants quand elle est née. Ce qui fait qu'à l'adolescence, donc quand sa mère est décédée, elle a été mise dans une pension. Et bien entendu, ma mère ne l'a pas très bien vécue. Donc dès qu'elle a eu l'âge de pouvoir se débrouiller seule, elle est venue à Paris. Elle était dans un foyer. Elle travaillait dans une maison de couture. Et le hasard a fait qu'elle a rencontré mon père. En fait, elle accompagnait une amie à elle, Gare Saint-Lazare. Et sur le quai, voilà, elle a rencontré mon père. Et voilà, donc c'est...
Alors, le livre est ponctué par des photos. Hein. On a des photos d'Irak, des photos de votre famille, des photos de l'époque, des photos où vous étiez bien habillée, des photos de pique-nique aussi. Est-ce que ça vous a beaucoup aidé, Lévis Trondheim, pour imaginer les personnages où vous êtes...
Pour les personnages et pour la documentation, oui, ça m'a aidé. Mais au tout début, je ne pensais pas les mettre dans le livre. C'est parce que à la première photo, avec ces lions ailés dont il manquait la tête dans la réalité et aussi sur la photo elle-même, je me suis dit, tiens, c'est bien de mettre la photo sur cet épisode-là. Puis après, sur l'épisode suivant, ah oui, t'as aussi une photo à Atra, mettons cette photo où t'as cueilli des coquelicots avec des amis dans les vieilles pierres. Ah, puis est-ce que t'as encore une photo pour la suivante? Donc, petit à petit, à chaque fois, je me disais, il faut mettre des photos, il faut mettre ça pour vraiment ancrer dans le réel cette histoire-là, pour se dire, voilà, c'est pas juste une bande dessinée, on invente tout. C'est pour dire, voilà, c'est vrai, regardez, il y a des vraies traces. On a toujours un petit peu le problème quand on lit une BD ou un roman. Quelle est la part de vrai, quelle est la part de faux? Et là, j'aimais bien dire, bah, tout est vrai.
Mais c'est aussi une histoire de choix, comment vous avez choisi ces souvenirs. Est-ce que Lévis Trondheim était un bon filtre pour garder les souvenirs les plus parlants? Comment vous avez travaillé ensemble, sachant que vous êtes un couple, hein?
Oui, en fait, au départ, c'est moi. J'avais pris des notes, donc j'avais essayé d'écrire mes souvenirs, mais j'y arrivais pas. Donc après, j'ai pris des notes sur tout ce dont je voulais garder la trace. Tous ces souvenirs, qu'ils soient bons ou moins bons, ce que j'ai vécu, moi, ou ce qu'on m'a raconté, ou ce qu'on racontait régulièrement dans la famille.
Qui a eu cette idée, par exemple, à chaque fois, de mettre une page sur les bons souvenirs, pour dire, ok, on va parler de la dictature, on va parler du racisme intercommunautaire, on va parler aussi des difficultés qu'il y a dans une famille normale, mais ça doit être ponctué toujours par des bons souvenirs, de bonnes odeurs de l'époque.
En fait, il y a deux principes. Il y a le principe en Irak, c'est-à-dire qu'il y a des pages en Irak, donc c'est des choses qui se passent en Irak. Par exemple, les hommes, ce sont eux qui font les courses. Quand il y a un couple qui est stérile, qui ne peut pas avoir d'enfant, il y a au bout du quatrième enfant du frère ou de la sœur, on donne le bébé au couple stérile. Ça, c'était moi qui voulais ponctuer de temps en temps le récit. Mais Brigitte, à la fin, voulait absolument laisser aussi une petite odeur, une saveur particulière, pas de nostalgie, mais en tout cas sur les bons souvenirs, en disant voilà, c'est ma vie n'a pas été horrible, ma jeunesse n'a pas été horrible, il y a des choses bien, des choses moins bien, on essaie de le rapporter, mais voilà, ce qui me reste maintenant, c'est que ces souvenirs-là, et dont les bons souvenirs.
Chronique de la vie aussi sous une dictature, votre mère a été obligée de travailler pour la police politique irakienne, c'est incroyable.
Oui,
Brigitte Fintakli, quand vous racontez ça en une page, c'est tout à la fois réaliste et c'est très poignant en même temps, parce qu'on a l'impression que c'était ça, la dictature au jour le jour.
Oui, oui, et quand ma mère en parle, ça me fait rire parce qu'elle me dit « Mais tu te rends compte ce que j'ai été obligée de faire ?» Donc, c'est lorsque mon père, donc militaire...
Mais dentiste, militaire dentiste.
Mmh. Voilà, dentiste militaire. Donc, comme il savait qu'il était bilingue puisqu'il a fait ses études en France, ils lui ont demandé de lire le courrier des Français qui vivaient en Irak. En général, les Français qui étaient là, ce sont des Français qui venaient travailler pour des sociétés françaises qui étaient installées en Irak.
Dont un couple d'amis.
Et donc, ils ont demandé à mon père de lire ce courrier. Mais ils ne lui ont pas trop demandé son avis, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le choix. Donc, mon père ne voulait pas non plus faire d'histoire, donc il a pris ce courrier seulement, il n'avait absolument pas envie de le lire. C'était impensable pour lui. Du coup, il a délégué à ma mère. Mais ma mère, je pense qu'au début, ne s'est pas trop rendu compte de ce que ça pouvait représenter. comme elle dit, ça me contrariait, mais bon, voilà, il m'a demandé ça, donc je l'ai fait, j'ai commencé à lire le courrier, et puis un jour, donc, elle tombe sur une lettre d'une soi-disant amie, une Française, donc, qui écrivait à sa mère. Et cette dame disait... j'aime beaucoup le docteur Findakli, donc mon père, mais par contre, sa femme, pas du tout. Et ma mère qui lit ça, et elle me dit, quand j'ai lu ça, j'ai dit, donc, elle a dit à mon père, non, c'est terminé, moi maintenant, je ne veux plus lire le courrier. Donc voilà, finalement, ils ont, dans l'armée, ils ont accepté, dans la mesure où pas une seule fois, mon père n'est revenu en leur disant, oui, alors il y a un tel qui a écrit quelque chose... Faut peut-être voir.
Les choses les plus dures, les plus cruelles, passent avec des scénettes plutôt légères, très drôles, très attendrissantes, jusqu'à la fin d'ailleurs. On a une drôle de réaction quand on apprend à la fin que toute votre famille, Brigitte Findakli, est devenue islamophobe. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous dites, je ne les juge pas, comme si c'était ça la fatalité, le produit de tant de guerres.
Oui, ils sont, disons, je dirais pas maintenant la majorité, mais presque la majorité d'entre eux le sont, effectivement. Et c'est très difficile de discuter avec eux, en fait. Ils sont tellement sûrs d'eux, sûrs de leurs affirmations, que quoi que je dise, j'ai essayé à un moment, notamment avec une de mes cousines, j'ai essayé de discuter avec elle. Mais elle ne voulait même pas débattre, en fait. Elle me disait, non, mais tu ne sais pas, et quand tu étais en Irak, tu étais trop jeune, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne les connais pas bien. Alors qu'elle sait pertinemment que nous fréquentions que des musulmans pratiquement à Mossoul, que nous n'avons jamais eu de problème, et que j'ai ma meilleure amie en Irak, enfin, qui n'est plus maintenant en Irak, mais, et musulmane. Mmh. Elle le sait, mais impossible.
Et puis pour terminer, une chanson de l'époque, c'est vous qui avez choisi ce chanteur, Nazem El Razali, qui était une immense star, qui est mort en 1963, né en 1921. C'était un très grand chanteur et très populaire de l'Irak.
Très populaire, effectivement.
Il était marié d'ailleurs à une chanteuse juive irakienne, Salima Mourad. Mais voilà, mais ça c'est... Qu'est-ce que vous dites ?
Ça je l'ai su après, ouais. Effectivement.
Mais quand vous écoutez cette chanson, et on va glisser d'ailleurs la chanson, on va écouter un extrait, qu'est-ce que vous dites ? Adieu pays bien-aimé, mon Irak a disparu à jamais, ou vous gardez l'espoir ?
Ah non, j'avoue que je ne garde plus d'espoir, non, à ce niveau-là, non.
Et vous, Lévi-Strondheim, est-ce que vous voulez aller visiter l'Irak sur les traces de cette ville qui a vu naître votre compagne, la
clairement, mère de pendant longtemps, j'ai pensé qu'un jour j'irai, mais là, avec tout ce qui se passe, je ne pense pas, même en étant optimiste, qu'on puisse y aller tranquillement avant une cinquantaine d'années.
Vous écoutez encore de la musique irakienne aujourd'hui, Brigitte Findakli. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi, ce que veut dire Findakli, je vous recommande de lire cette bande dessinée, peut-être la meilleure de cette rentrée, Coquelicot d'Irak, chez l'association.
Merci. Alors, j'écoute, mais pas trop souvent, parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'écoute de la musique irakienne ou égyptienne, enfin de la musique arabe, je me mets à pleurer.
Bon.
Voilà. C'est terrible. Donc, en général, quand j'écoute, c'est quand Lewis n'est pas à la maison. Et là, je m'autorise, tout en travaillant.
Déjà, tu vas au supermarché, t'achètes des Kleenex et après, t'écoutes la musique.
Elle n'a pas toujours écouté de la bonne musique, Brigitte Findakli, je ne vous en dis pas plus. Vous allez tout découvrir en lisant cette bande dessinée. Merci beaucoup, Lévi-Strondheim.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, Brigitte Findakli, d'être venue. Vous retrouverez, bien sûr, le dessin de Lévi-Strondheim, mis en couleur par Brigitte Findakli, en passant par le site de franceculture.fr, à la page de l'émission. Alors, comment on dit cette émission ? Pas au double ? Qu'est-ce que vous dites ?
Pas au double.
Et vous ? Je ne suis pas du tout espagnol, donc je ne saurais pas le dire.
Non. Merci, bon week-end. On se retrouve lundi. Et lundi, je serai avec Éric Viard pour parler de la Bastille, oui, de la Révolution française. Bon week-end.